I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Zen, j'espère que ça va.
Bienvenue. Merci de l'invitation.
Yo,
c'est cool.
Est-ce que c'est ta première fois sur Twitch?
Première fois. Et c'est ici, donc il n'y a pas mieux, je pense. Vraiment, il n'y a pas mieux.
Eh bien, écoute, ça nous fait très, très plaisir.
Il a raison, c'est sa première fois, mais il sait déjà la vérité qu'on n'est pas mieux que sur ce plateau-là.
Bah, exactement.
T'as eu une belle intuition.
Ouais, même, tu le sais. C'est comme mon petit message de préambule. Donc, c'est des micros de podcast, il faut que ça soit vraiment très près, mais pas trop. Ben là, c'est parfait.
C'est parfait.
Exactement.
On est
bien. Et on va essayer d'éviter un petit peu les anglicismes. C'est nos bonnes résolutions de l'année. Et d'expliquer tout ça clairement. Tu as donc 22 ans, tu viens tout droit de Belgique et avec toi, on va parler d'un truc très particulier, à savoir une économie. Une économie cachée que les gens ne connaissent pas forcément. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Je te
avec
présente
plaisir.
Benjamin, qui est développeur.
Ça m'avait trop plaisir. Il fait un truc qui a l'air de me passionner de ouf et il me dit, bah, je regarde j'ai déjà vu tes vidéos, moi ça m'a fait plaisir.
Curiosité, avant qu'on commence, est-ce que tu as déjà des youtubeurs qui ont déjà été clients ou qui ont voulu t'acheter des pseudos, des trucs?
Non, pas des gros youtubeurs.
Pas des noms, des
tapas. Ils ont peut-être pas envie de se mouiller dans des trucs comme ça, ils trouvent ça peut-être un peu trop obscur ou quoi, mais ça viendra peut-être.
Ok.
Les gens sont hook. Il y a un anglicisme. Là, les gens sont accrochés. Ils se disent, mais de quoi on va parler, que diable? C'est quoi cette histoire de.
Eh ben, moi, j'ai une question pour toi. Benjamin, est-ce que tu connais le business des OG username?
Je crois que je le connais, ouais. J'ai vu une vidéo sur ce sujet sur YouTube il y a un petit moment. Et donc, oui, j'ai vu que ce marché-là existe, mais j'ai pas du tout mis le doigt dans l'engrenage. Enfin, j'ai une connaissance très superficielle du sujet, mais ça me parle.
Eh ben, moi, je connaissais vraiment pas du tout. Et en fait, c'est un business à propos des pseudos rares. Et donc, chers qui se revendent sur des forums spécialisés, parfois à prix d'or. Donc, votre pseudo Instagram, Twitter, mais vendu 100 000 dollars, par exemple, uniquement pour avoir le privilège de posséder le pseudo. Ça paraît complètement dingue, mais c'est devenu une véritable économie parallèle. Certains s'occupent de faire les intermédiaires, d'autres ont carrément développé des outils, des auto-claimers, qui sont un peu des scripts pour récupérer un maximum de pseudos intéressants pour les revendre après. Bref, pour tout vous expliquer sur ce marché complètement interdit par les réseaux sociaux, évidemment, on a invité Faxen, qui est un spécialiste du domaine, qui a supervisé plus de 180 000 transactions impliquant des usernames. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer comment toi, t'es tombé dans ce business?
Simplement, j'étais en vocal avec un ami qui, lui, est baigné un peu là-dedans. On était tous les deux un peu passionnés par les trucs rares sur les comptes de jeux vidéo, les pseudos sur certaines plateformes. Et puis il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu connais ce site? Je lui dis non. Et j'y suis allé, j'ai commencé à creuser, à me renseigner, je me suis créé un compte, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à vendre. Et j'ai commencé à essayer de le manipuler de mieux en mieux. Et au final, de fil en aiguille avec les années, j'en ai fait une utilisation vraiment quotidienne, quoi. Donc c'est comme ça, c'est lui qui m'a en fait donné ce site, et de là, bah voilà, on découle des salons Telegram dédiés, des serveurs Discord qui sont dédiés, etc.
Parce qu'on est d'accord que ça n'est pas ton métier actuellement.
Non, c'est une super source de revenus complémentaires, c'est un passe-temps qui est génial, mais je n'en vis pas, malheureusement.
Juste pour les gens se fassent un peu une idée, on peut gagner combien en étant comme toi tu l'es, plutôt un intermédiaire? C'est pas assez pour vivre, mais...
Ouais. Alors, il y a des middlemen qu'on appelle, en fait, donc ils font l'intermédiaire pendant une transaction, pour la sécuriser. Il y en a qui ont un rôle vraiment officiel, et eux, tout le monde les utilise. Donc, on imagine des milliers d'utilisateurs par mois qui, en fait, utilisent environ 5 à 10 middlemen. Donc, ils ont une clientèle de malades, ils font des dizaines de deals par jour. Et je pense qu'eux en vivent. Et je pense qu'eux en vivent très confortablement parce que, honnêtement, ils touchent à peu près 5% de la somme d'une transaction. Donc, j'achète un compte, par exemple, à 1 000 $. Eux vont toucher 5% de ça. Ils en enchaînent toute la journée. Donc, ça fait des milliers de dollars à la fin du mois, ça, même plus fou. Pour les gros middlemen. Ouais.
Et alors, juste pour comprendre, c'est quoi un OG username?
Bah alors, OG. Ouais, tout à fait. OG, c'est le terme OG vient original gangster, donc ça n'a pas vraiment de rapport original en fait. On peut les appeler comme ça, original username. Simplement un pseudo qui est générique, qui est court et qui est pas personnifié dans le sens où si je crée mon Instagram, je m'appelle Martin, je crée mon Instagram, j'essaye de créer Martin. Évidemment, il sera déjà pris parce qu'il y a un mec qui a le pseudo Martin. Mais si après je viens rajouter des chiffres, par exemple Martin 18 59 10, bah c'est tout de suite voilà.
Donc facile.
C'est plus facile à créer. Donc au plus on est court, au plus on est dans des mots qui sont connus, des mots qui sont courants de la langue, souvent en anglais parce que c'est un peu là-dessus que tout tourne. Je veux dire, il y a des noms rares en français, mais personnellement, enfin, ça a apparemment de grandes valeurs sur le marché. Donc c'est vraiment les mots anglais qui sont super rares. Plus ils sont courts, plus ils ont une connotation de sombre, de tristesse, d'ego. Ouais, il y a vraiment...
Ouais. Ça, ce détail, il est incroyable.
En fait, parce que les gens qui achètent ça, ils veulent prouver, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Je veux dire, ouais, moi, j'ai ce pseudo. J'ai le pseudo Killer, par exemple, sur Minecraft, peu importe. Ben voilà, j'ai le pseudo Killer, tu vois. Et en fait...
Ça, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert tout ce truc-là. C'est un fou sur Minecraft qui a pris le pseudo Killer ou un pseudo un peu...
Killer, il a été vendu plein de fois. Après, il y a des youtubeurs Minecraft. Il y a un anglais qui s'appelle Ironique.
Un fou.
Il a fait des vidéos sur les pseudos Minecraft les plus chers parce que là-dessus, ça vaut énormément d'argent.
Ouais. Complètement dingue. Moi, j'ai découvert à la base tout cet univers il y a quelques années.
Ouais.
Mais je crois que c'est une de tes connaissances en plus qui m'avait envoyé un DM sur Instagram. Et là, je vois @wow, c'est genre W-O-W,
ouais.
Qui m'envoie un message. J'étais en mode...
Okay.
Ce pseudo existe, il y a vraiment quelqu'un là. Et en fait, comme c'est bête, mais effectivement, ça reste un pseudo, mais tout comme un nom de domaine ou des choses comme ça, il y a une sorte de valeur symbolique à posséder le @wow.
Exactement, exactement. Ça te crée une posture, ça te crée une sorte, une énigme autour de ton identité. Mais voilà, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce pseudo, ce mec? Est-ce qu'il l'a acheté? Est-ce qu'il a des contacts? Si je devais chiffrer wow sur Instagram actuellement, il pourrait se vendre entre 40 et 60 000 $. Donc on est sur un gros pseudo, hein, trois lettres avec deux lettres. Enfin, c'est un mot qui existe, c'est un mot courant. Donc ouais.
C'est dingue. Et toi, du coup, c'est quoi ton rôle quand tu rentres là-dedans? Est-ce que tout de suite, t'as des responsabilités? Enfin, comment marche cet écosystème?
Moi, j'ai utilisé mes connaissances et ce monde-là pour aider les gens qui n'y connaissent pas trop, et ils sont beaucoup, à en acquérir via quelqu'un qui s'y connaît, en fait, au final. Donc, c'est un genre de courtier, broker, on appelle ça en anglais, mais le courtier est le mot français. Donc tout simplement, on contacte les vendeurs, on négocie un prix, on regarde un peu les infos de sécurité du compte parce qu'on ne va pas acheter n'importe quoi à n'importe qui, il faut savoir ce qu'on achète. C'est beau d'avoir un pseudo rare sur Instagram ou une autre plateforme, mais c'est bien de savoir d'où il provient, depuis combien de temps il a, et quelles sont les infos qui viennent avec, etc. Donc
ça, c'est ce que tu fais, toi, tout ce travail d'accompagnement et de transactions. Et c'est ça un middleman, du coup, c'est ça
en fait, non, pas exactement. Un middleman, lui, il va vraiment être là entre deux parties, entre deux utilisateurs, lors d'un achat. Si quelqu'un m'achète un compte, mais qu'il n'a pas forcément une grande confiance en moi, on va dire, écoute, on utilise un middleman parce qu'on a tous les deux confiance en lui, parce que c'est des gars qui sont super réputés sur les forums, sur les serveurs, etc. Comme je l'ai dit, ils font des centaines de deals par jour depuis des années, donc ils sont super réputés et implémentés dans le domaine. Et voilà, on crée un groupe, par exemple Telegram, avec le middleman, l'acheteur et le vendeur. Et ce qui va se passer, c'est que l'acheteur va envoyer l'argent au middleman,
ouais.
Imaginons 1 000 $, plus sa commission de 5%. Je ne suis pas super fort en maths, donc 1 000 $ plus 5%, c'est ça. Et le middleman reçoit l'argent, il le garde et il va dire au vendeur du compte, j'ai l'argent, tu donnes le compte maintenant à l'acheteur. Donc l'acheteur reçoit le compte, il le sécurise, il met son mot de passe, son mail, enfin voilà, des trucs basiques, mais il le sécurise. Et une fois que c'est fait, il va dire au middleman, voilà, j'ai sécurisé le compte, tu peux donner l'argent au vendeur.
C'est un peu le notaire, comme dit le chat. Ouais.
C'est exactement ça, c'est la fonction d'un notaire. Pour
okay.
des trucs... sur les réseaux et dans les comptes, ouais.
Oui, parce qu'évidemment, on le reprécise, mais ça, c'est un business qui n'est pas du tout encadré par les plateformes en question. Il n'y a pas Instagram qui a une collaboration avec vous pour faire de la vente de pseudo.
En effet, non. Ils ne sont pas super fans de ce qui se passe. Ils sont au courant parce qu'il y a ce qu'on appelle parfois des banwaves. Et c'est une série de comptes qui vont se faire bannir souvent en une journée parce que nos plateformes, les sites, les forums en ligne sont infiltrés par des employés. Il y a eu d'ailleurs des histoires avec ça.
C'est vrai.
Ouais, ouais, des journalistes.
En fait, c'est pris à la fin du mois, quoi.
C'est ça. Il y en a plein qui cachent en fait leur nom d'utilisateur qui sont en vente quand ils ont une certaine valeur parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit que ça retrouve dans des listes de comptes à vendre et que ce soit potentiellement banni, quoi.
Est-ce qu'on peut imaginer que si ça a de la valeur des employés en interne peuvent pas aussi vouloir participer au trafic.
Genre en mode... C'est ce que je pensais, moi, c'est ce que j'avais compris à l'instant. Je pensais que c'était ça, ouais.
Ouais, c'est ce qu'on appelle des reps et ça existe tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui vont creuser LinkedIn, qui vont envoyer des messages dans les chats de support en disant « Contacte-moi à ce compte, on peut faire du business ensemble. » Des fois, ça fonctionne. Et donc, il y a des gars, en fait, qui avaient des services sur les réseaux. À l'époque de Twitter, quand la certification était encore pour les comptes de célébrités, ça se faisait payer. T'avais des gars qui disaient, voilà, moi j'ai un accès avec un employé de chez Twitter, par exemple, 3000 balles et je vérifie votre compte. Et on a un chèque bleu. Ça a été pareil avec plusieurs plateformes. Ouais. Donc ça existe, ouais. Il y en a plein qui ont eu ça.
C'est hyper marrant, c'est l'équivalent d'un policier corrompu qui te donne accès
exactement,
à des trucs.
Exactement.
Mais au sein des plateformes, des GAFAM, c'est complètement hallucinant.
Exactement. Ouais.
Et donc, est-ce que toi, ton but, justement, parce que tu nous as parlé du rôle d'intermédiaire, qui est un peu les gens qui se mettent le mieux dans l'histoire,
ouais, au final,
potentiellement,
ouais.
Est-ce que c'est ton but de devenir intermédiaire ?
Non, c'est vraiment un truc génial à faire parce que on a ce sentiment d'aider les gens à plus se faire arnaquer parce que y en a plein, forcément, hein, dans ce genre de truc un peu lugubre, un peu obscur. Il y a des gars qui sont mal intentionnés. Donc mon objectif, oui, si je pouvais en vivre, évidemment, parce que c'est génial. T'es sur Internet. Moi, j'adore tout ce qui est finance, tout ce qui est banque, etc. Donc c'est un parallèle qui est génial. Mais maintenant, j'ai pas forcément peut-être les épaules ou j'ai pas encore la notoriété pour le devenir en tant que professionnel comme certains Américains le font toute la journée, quoi. En tout cas, ça demande vraiment une solide réputation depuis des années. J'en ai une très bonne, mais pas à leur niveau. Mais...
Moi, j'ai une question. Genre, par exemple, si je veux récupérer le blaze beau gosse du 33 sur Instagram, par exemple, et qu'il est déjà pris par quelqu'un, mm-hmm. Je peux me tourner vers toi et te dire « Gros, est-ce que tu peux m'aider à récupérer ce password, enfin ce username ?»
Ouais, tout à fait. Alors... Je connais des gars, c'est pas moi qui fais les services, évidemment, moi je relaye. Il y a des gars qui ont, justement, via des employés, ils peuvent claim, donc ils peuvent récupérer des comptes inactifs. Il y a ça sur plein de plateformes, PlayStation, Twitter, Instagram, mm-hmm. Et tout ce qui existe presque. Et donc ces gars font payer par exemple 1500 pour Instagram, il y en a qui le font pour 1500. Ils vont récupérer ce qu'on appelle des noms d'utilisateurs inactifs. Donc il y a par exemple, il faut 3 ans d'inactivité, 0 poste, il ne faut pas que le compte appartienne à quelqu'un qui soit actif. Si le compte est vraiment déclaré comme inactif, dans ce cas-là, tu peux payer, le gars te le récupère et te le donne sur un tout nouveau compte et tu as ton nom d'utilisateur.
Mais ça passe par un employé, ça veut dire que le mec a graissé la patte d'un employé d'Instagram pour récupérer ce nom.
Ouais, pas toujours, il y en a qui le font en fait avec des sites internet, c'est-à-dire qu'ils vont créer tout un site internet rapidement avec des sites qui le font à l'avance. Ils vont créer en fait un faux profil business, un faux profil d'entreprise pour ce qu'on appelle faire du trademark. Et en fait, ça permet de pour les grosses marques ou pour les startups de récupérer des noms d'utilisateurs de leur nom.
Donc, par exemple, Instagram a intérêt à faire en sorte que des nouveaux business viennent sur leur plateforme, probablement en termes de stratégie, mmh. C'est malin. Et donc, ils ont un système pour, en cas de marque déposée, etc., donner un nom d'utilisateur si tu as le bon nom.
Ouais,
donc eux, ils utilisent ce mécanisme.
Ouais, ils se font passer pour une entreprise et puis ils réussissent à choper le nom. Mais ça marche super bien et certains gars le font aussi via directement un employé. Il y a un peu les deux.
C'est incroyable. Et alors, si on peut donner un peu les différents réseaux sociaux qui sont touchés par ça, c'est lesquels et est-ce qu'ils valent tous le même prix? En gros, t'as un même nom d'utilisateur, par exemple, on va dire @wow.
Ouais.
Est-ce qu'il va avoir plus de valeur sur un réseau qu'un autre?
Tout à fait. Actuellement, Instagram est vraiment numéro 1. Ah ouais. C'est là qu'il y a les prix les plus abusés. Et en effet, il y a des services de claim sur Instagram. Les gens peuvent récupérer des pseudos inactifs moyennant une certaine somme. Sur Twitter aussi, il y en a qui font ça moyennant une certaine somme. PlayStation aussi, c'est beaucoup moins cher. Par exemple, je sais que pour les claims, on est entre 500 et 1000 dollars, alors que sur Twitter, Instagram, on peut dépasser les 4-5 000. Il y a aussi les gens qui font une différenciation, une différence entre les pseudos très rares et les pseudos communs. Par exemple, si je vais récupérer le pseudo, j'en sais rien, Code, tout simplement, sur Instagram.
Non, ça.
C'est ça. Je vais récupérer le pseudo Code sur Instagram. Il est inactif, super.
Ça commence maintenant, hein, pote.
Eh bien, ce pseudo, ça va être considéré comme un pseudo générique. Comme, parce qu'il est très rare, c'est un mot très utilisé de la langue. Et donc, ça va être peut-être entre 7 et 11 000 dollars. Et le mec te le récupère et te le donne sur Instagram. Tandis que si tu veux récupérer. Mi-code, pour prendre ton exemple, parce que là, on est plus sur un pseudo personnel. Là, ils te le font à 2000 balles, parce que c'est pas forcément un truc.
Il y aura moins d'acheteurs potentiels. Et
c'est
donc,
ça.
Le prix est réduit, quoi.
C'est ça.
Et juste, on a parlé de récupérer des comptes abandonnés, mais j'imagine que tu dois aussi pouvoir récupérer des comptes pas nécessairement abandonnés. Parfois, tu peux voler carrément le nom d'utilisateur de quelqu'un. Ça existe, ça se fait parfois.
Ouais, tout à fait. En fait, il y a un fil rouge que certains qui proposent ce service ne franchissent pas, et voilà, parce qu'ils ont une certaine déontologie. Ouais. Eux le disent dans leurs annonces. Je vous récupère vos comptes, mais souvent ils mettent dans les conditions que le pseudo ne peut pas être actif, ouais, et ne peut pas être utilisé par un membre de la communauté. Attention, parce que les autres, on s'en fout.
Ah, okay.
Souvent, en fait, voilà, quelqu'un de lambda qui a un pseudo, on s'en fout de les récupérer, parce qu'après, ça n'a pas de répercussion. Tandis que si ça appartenait à un membre de la communauté,
là
ça va mêler le staff des forums.
C'est un tout petit monde, en fait, c'est trop marrant.
Ouais, un truc de dingue. Hein, mais
c'est quoi les transactions un peu records, celles qui ont les ventes qui ont été les plus coûteuses.
Ah, il y en a eu pas mal, je pense notamment à Instagram. Il y a eu un pseudo une lettre qui s'est vendu il y a 2 ans. C'est Bird qui l'avait acheté. Ce gars a pas mal d'argent. Il s'est dit bon, je vais acheter un pseudo une lettre sur Instagram. Je me souviens plus exactement de la lettre que c'était. C'est une des 26, mais il y en a plein qui ont été bannis, qui sont utilisés entre temps. Je sais qu'il y a un ancien dev de chez Twitter qui a J sur Instagram. Jonah Grant, il s'appelle. Et bref, 160 000 dollars pour une lettre qu'il avait acheté. Et c'est pas de bol pour lui.
Je crois que c'est le G qu'il a eu. Enfin, si je vois bien, là.
Lui, c'est Roberto Nixon, en effet. Lui, il a détenu G sur Instagram pendant plusieurs années.
Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider.
Un business, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est que tu peux monter
une idée d'invité que vous aimeriez. Ça permet de faire remonter Underscore.
Trafic. Donc après, si tu attires des gens avec des publications sur une cible, une niche bien précise, tu gagnes des abos, tu peux faire des partenariats commerciaux, tu peux monétiser après ton audience. Donc il y a une stratégie aussi derrière. C'est pas juste détenir un compte et se poser dessus les pieds en éventail, mais c'est se dire, ok, maintenant, j'en fais une source de revenus, peut-être, quoi.
Et tu dis, il l'avait parce qu'il a perdu ?
Ouais, il s'est fait ban ou récupérer, je sais plus. Mais là, le compte, il est banni.
Oh,
du jour au lendemain.
Mais pourtant, il faisait rien d'illégal avec cette lettre.
Absolument rien d'illégal. Il l'avait créé. Et je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est justement quelqu'un qui a essayé de le trademark avec une fausse page business, qui a essayé de le récupérer. Je pense notamment à, vous parliez de Middleman juste avant. C'est assez drôle parce que depuis qu'il y a eu l'introduction de Fragment, donc qui est la plateforme de marché de Telegram, tu disais en début d'émission que les plateformes sont pas forcément OK avec ça, mais Telegram a fait sa propre marketplace de nom d'utilisateur Telegram qui s'appelle Fragment. Tu payes avec la crypto-monnaie TON, T-O-N, et tu peux acheter.
Voilà. En fait, ils ont vu que le marché existait.
On y va.
C'est ça.
Donc, avec ou sans eux, ça va se faire. Donc, autant qu'ils prennent un petit billet.
Ils ont été trop forts parce qu'en fait, ils ont pris tous les pseudos qui étaient indisponibles ou ban ou quoi. Ils les ont mis en vente et ils ont dû se faire des millions de dollars. Et après, c'est maintenant les membres de la communauté qui vendent leurs pseudos. Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a eu le nom d'utilisateur Telegram @middleman qui a été acheté. Et c'est, je pense, une des transactions records pour la communauté des OG. 150 000 dollars.
Wow.
Donc on a en fait ces deux gars de la marketplace qui ont acheté ça ensemble. Ça a été racheté il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais je n'ai pas le montant parce qu'il n'a pas été divulgué. Mais initialement, il a été acheté 150 000 dollars.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Et il y a des dizaines de comptes Minecraft à 50 000, 60 000 dollars qui ont été achetés aussi, et toutes les semaines, ça continue.
Mais de l'extérieur, c'est comme les noms de domaine, d'ailleurs, mais ça paraît tellement absurde. C'est encore plus absurde que les noms de domaine où tu peux imaginez qu'il y a une entreprise derrière,
ouais,
et que c'est
des... Ouais, tout à fait.
Là, le nom d'utilisateur, on dirait vraiment que c'est des gens avec trop d'argent qui s'ennuient. Bah, c'est quoi un peu le profil pour savoir des acheteurs de ce genre de trucs?
On a des gars qui sont dans les cryptos et qui se disent, bah voilà, je me suis fait un peu de bénéfices. Forcément, ils sont un peu familiers avec toute cette culture d'Internet, des profils, etc. Et ils tombent dessus et ils se disent, bah voilà, les mecs, ils ont les moyens et ils achètent leur pseudo. On a des gars aussi qui font de l'achat-revente de pseudo. Donc ils achètent à bas prix, ils revendent le double parfois, ils font ça beaucoup et au final bah, ils acquièrent après des pseudos de plus en plus rares. On a des gars qui font ça juste pour l'image, ils achètent un compte, ils sortent de nulle part, ils se prennent, j'en sais rien, SAD par exemple, SAD, toujours des pseudos un peu tristes, mélancoliques, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux.
Flingue, ce truc.
C'est très symptomatique de la population.
Ça. Tu te prends ça sur Instagram, le mec il met son compte en privé, il a zéro abonné, zéro abonnement. Et voilà.
Il est content. Ouais.
Il a dépensé 70 000 balles et il est content. Quoi.
C'est complètement hallucinant. Et toi, est-ce qu'il y a des gens connus qui ont genre déjà acheté des pseudos dont...
Ouais, bah, ils essayent de se faire discret, mais je sais que sur la plateforme donc Flipped où je suis, donc c'est la plus grosse, c'est la majeure plateforme. Il y a le rappeur, l'artiste américain Snot, SNOT, qui avait acheté un compte PlayStation à l'époque, ouais, de 3500 balles. En fait, on peut le voir d'une certaine manière, c'est que les NFT, au final, on s'en fout de ce qu'on a comme image, que ce soit Bob l'éponge, que ce soit un singe avec une couronne. Ce qui compte, c'est le projet qu'il y a derrière. Et c'est se dire, si j'investis dans ce NFT, dans 6 mois, qu'est-ce que ça va valoir? C'est ça le principal, surtout. Les noms d'utilisateurs, c'est un peu pareil, parce qu'au final, quand tu regardes depuis des années, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça aberrant.
Ouais, et
mais au final, les prix ne diminuent pas, les prix montent. Et il y a des investissements, il y a des trucs qui pop, qui naissent tout le temps.
Un petit stress, c'est qu'on t'éteigne ton compte du jour au lendemain.
C'est des risques.
Michael, j'ai une question pour toi. Justement, qui a un lien avec tout ça. Je crois que toi, à un moment donné, tu n'avais pas mis code sur toutes les plateformes.
Exact.
Et ma question est...
Oh, j'avais oublié.
T'aurais payé combien un service comme ça pour récupérer mes codes sur la plateforme qui te manquait?
Mais tu sais que j'ai payé. C'est ça que je viens de me souvenir.
C'est vrai.
Voilà. J'avais complètement oublié. Mais j'ai déjà payé quelqu'un pour avoir le @mes codes. Alors, je vous fais toute l'histoire. Ça m'aurait peut-être coûté moins cher de te connaître avant.
Peut-être.
En fait, c'était sur Instagram justement.
Ouais.
Et le @mes codes était pris.
Ah, ok.
Était pris par quelqu'un qui habitait à Dubaï.
Ouais.
Donc, autant vous dire qu'il ne connaissait pas la chaîne, tu vois. Non. J'aurais pu espérer ça, mais non. Et en gros, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'en ai parlé à un moment dans une vidéo. Et donc, il y a plein de gens qui sont allés enquêter sur cette personne, le pauvre d'une certaine manière, qui sont allés enquêter sur cette personne pour le retrouver sur Facebook.
Ok.
Et lui envoyer des messages en mode... Il y a un youtubeur français qui voudrait ça, pseudo, ouais. Qui aimerait ton contact pour discuter, machin. Donc, évidemment, j'étais content parce qu'on a trouvé la personne, mais c'est pas moi qui avais lancé la chasse.
Et oui, donc il savait qu'il y avait des thunes à se faire.
Exactement, le problème, c'est que du coup, il a tous ces gens qui lui parlent et se dit on va se faire un peu de thunes. Donc, en vrai, je crois qu'au final, c'était vraiment pas grand chose. J'ai dû payer genre. Dans les 100 ou 200 balles, tu vois.
Ah ouais, ça va.
Exactement. Non, mais
ça va.
C'était juste un petit truc. Mais je me souviens qu'il avait demandé à que la transaction soit faite en Western Union.
Dubaï.
Honnêtement, à l'époque, j'étais en mode, attends, je le fais pas. Non, mais c'est quand même si c'est sûr que c'est une arnaque, ce truc, c'est pas possible. On me demande du Western Union.
Et en même temps, 100, 200 balles pour récupérer enfin.
Exactement, le truc que t'attendais depuis si longtemps. En plus, mi-code, c'est assez court, tu vois. Ouais. C'est 6 lettres.
Ouais, ça pourrait, ouais.
Oui, je t'ai pas dit, mais c'est 6 lettres. Et ça a fonctionné, il m'a passé le compte, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, ça me fait une parfaite transition, j'avais discuté justement avec Letteux.
Tout à fait.
Qui est une de tes connaissances. Et il m'avait dit. Au moment de la transaction, il ne faut surtout pas que tu demandes à l'autre de modifier son pseudo pour toi le récupérer dans un intervalle de temps le plus court possible. Il m'a dit, surtout ne fais pas ça, parce qu'en gros, il existe des techniques pour choper le pseudo au vol.
Ouais.
Et c'est ce qu'il appelait les autoclaimers. Est-ce que justement, je crois qu'en régie, on a potentiellement une petite explication de Letteux en personne?
Communément appelé Claimer, voire Sniper. En fait, c'est un logiciel, un espèce de robot, un script automatisé qui permet, dès qu'un non-utilisateur devient disponible sur une plateforme, donc ça peut être pour des raisons variées, du type quelqu'un qui essaye de transférer son non-utilisateur vers un autre compte, pensant que une seconde ça va être assez, malheureusement, bah non, il y a des bots derrière qui tournent. Le gars aura pas le temps de changer son pseudo qui sera déjà pris. C'est ça le concept. En fait, c'est des scripts qui tournent, qui nous permettent à nous, les claimers, de récupérer des noms d'utilisateurs dès qu'ils deviennent disponibles. Tout claimer, c'est dans le concept, c'est plutôt simple. C'est du bourrinage de requêtes HTTP jusqu'à en espérant que... Moi, pour donner un chiffre, je vais être sur des milliers de requêtes à la seconde. Ça va dépendre de la plateforme, mais en général, c'est ça, des milliers de requêtes à la seconde. Une liste de mots qui est grande, par exemple 30 000 mots, parce qu'en fait, le concept, c'est qu'on a des listes de mots communs, des mots qui valent plus ou moins cher, qu'on monitor toute l'année, en fait, en espérant qu'à un instant T, ils deviennent disponibles et qu'on puisse le snatch, le récupérer. Pour donner un ordre d'idée, je peux run une liste de 30 000 mots sur une seconde. Et ça, c'est toute l'année, toute la journée, ça fait des millions de requêtes. Au bout de l'année, ça fait des milliards de requêtes. Et juste pour espérer que quelques-unes de ces requêtes return, bah ouais, le pseudo est dispo, essaye de le prendre et que nous, on fasse du profit là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux montrer peut-être à quoi ça ressemble à peu près sur SoundCloud. J'ai un historique ici, on peut voir que il y a des claims, il y a des misses, beaucoup de misses, hein, parce que bah, l'air de rien, c'est pas... T'as des gens qui savent transférer leur pseudo sans que nous, on puisse les prendre. J'ai la même chose sur Telegram que je montrerai pas, mais c'est des milliers de pseudos à l'année qui sont récupérés. Et derrière, nous, on fait notre plan là-dessus.
C'est complètement dingue, cette histoire. Moi, ce qui me fume, c'est le niveau d'ingénierie, tu vois. La quantité de travail qui a été mis à concevoir un outil dont l'unique but est de choper des pseudos, ouais, c'est quand même incroyable.
Et du coup, c'est quoi la technique, du coup, alors, pour pas qu'il y ait ce laps de temps d'une seconde vous...
Ne jamais le faire. Ce qu'il m'avait dit, c'est, tu me diras si je me trompe, mais ne jamais changer un pseudo que tu comptes acheter.
Ah, donc tu achètes le compte.
Tu achètes le
si,
compte.
C'est rare, ouais, c'est le pseudo, ouais, rare. En fait, ils utilisent justement, ils ont des logiciels aussi, des swappers,
ouais,
pour transférer ça aussi, ben, comme ils le font, super rapidement, en une demi-seconde, et c'est tout est fait via un logiciel pour transférer un nom d'utilisateur d'un compte A à un compte B.
Okay.
Tout ça pour se protéger les autres autoclaimers.
Exact.
C'est la guerre.
Mais tu sais que quand j'ai récupéré Benjamin Code sur Twitter, c'est un gars qui me l'a refilé parce qu'il me dit « Ah, oh, moi, je savais pas qu'on pouvait changer son blaze. » Il me dit « Bah, ça y est, j'ai changé. » Je vais « Mais attends, sale fou. Attends,
ah ouais, on aurait pu
j'étais pas prêt du tout. Ouais. » Et on aurait pu me le choper 10 fois, là, entre-temps. Ouais. Et je suis vite venu choper le truc. J'ai fait « Oh, yes, c'est bon, c'est secured. » D'ailleurs, merci à lui, hein, qui ne m'a pas demandé d'argent ni rien. Il m'a dit « Oh, t'inquiète, je te le rends. » Ça m'a fait grossement plaisir. Et il y a quelque chose de cool quand même, hein, quand tu récupères ton blaze. Hein.
Mais moi, ce qui me fume, c'est aussi le personnage. Bon, ça a été relevé dans le chat que c'est quand même un job très étrange d'être claimer.
Ouais.
Et en plus, on le reconnaît de loin dans son bateau.
Il est dans un bateau, ouais, on est d'accord.
Il est en Nouvelle-Calédonie, là. Incroyable. C'est un peu des beaux jours.
C'est fou. C'est complètement hallucinant. Mais surtout que j'imagine du côté des plateformes, ils doivent bien voir. T'imagines la quantité de trafic que tu te manges.
C'est par des milliers de proxys, ouais. Il doit faire des milliers de...
Je sais
de...
pas comment ils font pour envoyer comme ça des milliers de requêtes, mais c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de comptes en parallèle avec beaucoup, beaucoup de, comme tu dis, de proxys ou de choses pour masquer leur identité, masquer leur trafic.
Sinon, tu te fais ban en 2 secondes par une plateforme, c'est bien sûr. Moi, quand il a parlé de 1000 requêtes en 1 seconde, je me dis, mais attends, mais là, tu te fais permaban en 14 milligrammes. Mais non.
Et justement, on lui a demandé... Si il avait déjà pensé à le vendre, tu vois, cet outil qui est aussi performant, entre guillemets. Et c'était très intéressant. Il nous a dit que pas du tout. Il compte absolument pas le vendre.
Son gagne-pain, lui.
Notamment parce que si c'est le cas, il commencerait à avoir de la concurrence et qu'il veut pas de concurrence.
Ah, donc c'est quand même un petit malin. Il a développé son truc lui-même et tout.
Quand même fort. Souvent, c'est un signe. En général, quand tu développes un outil, ouais, que tu ne le mets pas en vente,
ouais,
ça veut dire que...
Ça fonctionne.
Il est... Exactement, ça veut dire qu'il est plutôt intéressant.
Mais là, le gars dans son bateau, c'est pas juste un gars qui arnaque et tout ça, machin. Il est quand même fort, il est smart.
Il a clairement développé son truc. C'est,
ouais, bah, c'est... Il a un profil super établi sur la marketplace qu'on utilise. C'est un gars, il est super fiable, ce gars. Donc, il fait un super boulot, il a géré tout ce qu'il a développé. Donc, force à l'été, parce que c'est un big boss dans son domaine, vraiment.
Il expliquait notamment que depuis 1 an et demi que Telegram a mis en place cette fameuse marketplace de username, il a vu son chiffre divisé par 10.
Ah ouais, waouh. Wow.
Comme quoi, justement, le fait que de démocratiser, bah, ça cut le business. Mais il pense que c'est quand même une bonne idée, voilà, malgré tout, le Telegram, et que ça va être amené à se démocratiser peut-être à d'autres plateformes. Toi, tu penses que ça peut être le cas
Que les plateformes ont créé leur propre shop, c'est ça
Ouais.
Ouais.
Je ne sais pas si elles vont le faire. Les autres plateformes, elles n'aiment pas trop ça. Telegram, assez spécial, parce que c'est fondé par un mec de ce style-là. Quoi. D'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai vu il y a 2-3 jours un tweet circuler. Un gars qui a acheté le nom d'utilisateur sous Fragment, Pavel, je crois, parce qu'en fait, c'est le nom du fondateur de Telegram.
Okay.
Il l'a acheté 90 000 dollars et il l'a envoyé au mec de Telegram, gratuitement.
Tellement il a une aura.
Il a acheté 90 000 balles, le Pavel, je crois que c'est ça, et il l'a envoyé au fondateur de Telegram. Donc c'est assez drôle.
C'est... Oui, c'est la conclusion.
C'est drôle, il y en a qui ont des passe-temps drôles. Quoi.
Mais c'est vrai que de l'extérieur, c'est probablement passionnant et c'est un monde, mais de l'extérieur, tu te dis, mais waouh, genre tout cet univers, cette économie parallèle. Pour, à la fin, quand ils pensent à arrobase avec des lettres. Ouais. L'être humain est quand même fascinant.
Ah ouais, mais c'est un truc de dingue, c'est pour des bêtises. Mais comme ça, mais c'est comme tout. L'apparence, des fois, les gens, ils mettent des billets énormes pour l'apparence, quoi. Mm-hmm. En l'occurrence, c'est ça.
Et moi, les skins sur le Fortnite ou les
ouais, ouais, sur plein de
la question qui m'intrigue, du coup, c'est... Toi, tu dis que tu n'en vis pas et tout, mais tu as l'air de quand même très bien connaître l'écosystème et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir un de ces giga middlemen, un de ces pontes des réseaux et de vivre sur un bateau en Nouvelle-Calédonie?
Non, mais qu'est-ce que t'attends,
On salue les deux. Non, je pense que c'est une question aussi... il faut faire les choses petit à petit et engranger et gagner une réputation super solide de pouvoir en vivre. Ça prend beaucoup de temps, c'est super chronophage, ça prend pas juste du temps dans la durée, ça prend du temps dans la journée.
Ouais.
Et ça m'a jamais non plus attiré de faire beaucoup d'achats-reventes pour essayer de faire des bénéfices sur des comptes et comme ça de monter petit à petit. Moi, je fais ça dans mon coin, je fais ça pour les gens qui viennent me contacter sur les réseaux et c'est au cas par cas, quoi.
Okay.
Donc, voilà.
Il y a peut-être une clarification. Est-ce que tout ça est légal?
C'est pas légal au niveau des conditions des réseaux, évidemment, parce que, comme
c'est
je l'ai dit...
C'est pas autorisé par les réseaux.
C'est pas autorisé par les réseaux, non. Quand ils le savent, généralement, ça finit en ban. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on achète un compte. Généralement, il faut pas contacter le support pour dire « Excusez-moi, vous pouvez me changer ça ?» Ils vont voir le changement d'IP, ils vont se dire « Le gars, attends, il y a une semaine, il était au Canada, là maintenant, il est, j'en sais rien, en France. » Ils vont inspecter et le compte va sauter rapidement. Donc non, c'est pas toléré par les plateformes.
Toléré par les plateformes. Maintenant, d'un point de vue du droit, bon ben là,
ils s'en foutent. Enfin,
c'est absolument pas encadré.
Non, c'est une goutte d'eau, c'est rien. Je veux dire, tu te prends un petit ban, tu te prends une tape sur les doigts, voilà, et c'est fini. Donc c'est pour ça qu'aussi ça continue et ça se développe de plus en plus. Il n'y a pas non plus des répercussions super graves tant qu'on fait pas de grosses bêtises comme certains en ont fait, mais tant qu'on fait pas de trucs super graves, ouais, on peut continuer.
Des grosses bêtises comme quoi?
Je vous ai pas demandé, mais j'étais très curieux.
Si ça vous dit quelque chose, peut-être ce qui s'est passé en 2020 sur Twitter, quand on se baladait tranquillement et qu'on a vu un tweet, par exemple, de Jeff Bezos qui disait d'envoyer du Bitcoin sur cette adresse et qu'il nous le rendait en double. Et puis Uber Eats et puis Apple.
Ouais.
En fait, c'était un hack qui a été organisé par un mec de Flipped, donc de la plateforme, qui s'appelait Rolex sur ce site-là.
Je m'en souviens très bien.
Exactement.
Cette histoire.
En fait, on en a parlé. C'est ça. Voilà, le mec a eu un accès à un panel admin, donc il avait le statut d'employé. Il faisait ce qu'il veut avec tous les comptes qu'il voulait. Je crois qu'au final, il a pris une vingtaine d'années de prison. Donc aux États-Unis, ils rigolent vraiment pas avec ça.
Wow.
Je pense qu'en France, tu t'en sortirais mieux, mais aux États-Unis, ils rigolent avec les trucs de fraude et de hacking. Mm-hmm. Les peines sont super lourdes. Donc, il y a eu
cette grosse différence. Vous, à chaque fois, là, même les autoclaimers et tout, il n'y a pas de piratage de compte.
Non, mais il n'y a pas d'arnaque. Je veux dire, le gars, il achète son compte, il le reçoit, tout va bien, il est satisfait.
Choper un accès à employé, en fait, c'est ça?
Ouais, il avait un panel, il pouvait faire ce qu'il voulait sur tous les comptes, changer les mots de passe, tweeter.
Mais ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, je savais pas que ça venait de là, mais déjà à l'époque, on se disait, c'est quand même très étrange ce hacking, parce que c'est un accès ultra important. C'est-à-dire que tu as la main sur n'importe quel compte Twitter.
Totalement.
Et pourtant, ce qui en a été fait... c'est pas ouf, tu vois, c'est une vieille arnaque à la crypto.
Ah oui, il a fait ça dans la précipitation. Et ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai réalisé 2-3 jours après cette attaque que le mec, je lui parlais sur Discord en fait. Il vendait des bêtes comptes Minecraft, etc. Et j'avais des DM avec lui, avec Rolex. Et puis je vois qu'il est banni. Et je comprends après qu'en fait, il était auteur de cette attaque avec un ou deux complices.
Ouais. Et qu'il a 20 ans de prison devant lui.
Ouais, au moins, je sais pas combien.
Juste ce que je comprends, c'est que moi, pour moi, ce truc, cette histoire, ça m'a l'air d'être une histoire de hacking pur et dur. En fait, je vois pas le lien avec ces trucs de swap, de pseudo et tout. Enfin, il a eu accès à un panel chez Twitter, ouais. Certes, mais quel rapport avec ce que vous faites
Non, mais ça, c'est vraiment le côté vraiment obscur et qu'on veut pas. Et d'ailleurs, le staff du site condamne totalement les activités illégales, ouais. Le black hat, etc.
Tu peux imaginer que dans ce genre de communauté, surtout quand il y a des transactions monétaires, etc., tu as une petite portion qui soit tentée de faire du phishing, du piratage de compte. Ouais. Pour obtenir des noms d'utilisateurs qui auraient de la valeur pour les revendre après. Donc, en fait, le lien avec le hacking, c'est celui-là, et la cybercriminalité, c'est qu'il y a de la valeur, il y a de l'argent, et donc il y a probablement des gens que ça motive à faire dans l'illégalité du piratage de comptes.
Exact, ouais. Ça, c'est la ligne à pas franchir, sinon, sinon tu reviens plus, d'accord. T'as ta gloire, t'as ton moment de gloire, mais c'est fini pour toi après.
De toute façon, tu pourras pas pratiquer depuis l'atoll, depuis la prison. Ouais,
Donc c'est une mauvaise idée, mais hyper intéressant en tout cas. Je sais pas si tu connaissais l'ampleur de ce monde parallèle.
Non, pas à ce point. Mais je peux comprendre un peu l'attrait. Nous, récupérer nos blazes, c'était important pour nous, par exemple. Donc je peux comprendre. Et ouais, par contre, j'achèterai pas Emo du 33 ou Super Sad ou des trucs comme ça non.
À 90 000 balles. Mais après tout, ouais, en fait, quand t'as... c'est sûr que dans la communauté crypto, il y a des gens qui ont fait fortune, ouais. Et eux, leur kiff, c'est pas un yacht, c'est un username, en fait. Et
totalement.
Et ça, c'est marrant.
Ça rend bien leur face, en vrai, tant qu'ils font pas de mal à personne.
C'est
ben...
riche du Web3, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, ça. Hein. Trop intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire. C'était vraiment trop, trop cool.
Avec plaisir.
Et puis nous, on va... Où est-ce qu'on peut te suivre éventuellement si...
Simplement sur mon Twitter, FAQZENFAXZONE. C'est là que je suis le plus actif.
Et toi, t'as pas été tenté de trouver un arrobase
C'est celui qui voulait depuis le départ.
Ouais, il me passait seulement mi-code, merde. pour l'histoire assez drôle, sur Twitter, j'ai acheté un nom d'utilisateur rare il y a quelques années, c'était Faster.
Okay.
Je l'avais acheté un peu plus de 1000 euros et je me suis dit, bon, bah, je vais le garder, c'est cool, c'est un mot anglais. Et puis le lendemain, je reçois un message, salut, je suis intéressé par ton nom d'utilisateur. Le mec me proposait 4 fois le prix, donc disons que je l'ai vite vendu.
tu as fait x4.
Mais j'ai un compte Instagram de 3 lettres, donc c'est considéré comme rare.
Ouais. Ok. Et ça, par contre, tu le dis pas parce que tu pourrais te le faire ban, ton compte.
Non, parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un de chez Instagram. Après,
on ne prend pas le risque.
Non, j'ai un pseudo 3 lettres. PlayStation aussi, j'ai eu des super noms d'utilisateurs.
Très stylé.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.